Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vois que plusieurs toussent, plusieurs ont des masques. C'est la saison, hein. Et c'est vrai que j'avais prévu de dire qu'on avait remis les pendules à l'heure par rapport à l'Avent, qu'on était au deuxième dimanche de l'Avent, mais en fait on a allumé trois bougies, donc on est peut-être au troisième dimanche de l'Avent. Peu importe, cette année on s'embrouille un petit peu. Mais on est dans cette période de l'Avent, juste avant Noël. Et bienvenue notamment, eh bien, si vous êtes là en visite, je pense notamment à ma belle-sœur qui est là aujourd'hui avec nous. Bienvenue à chacun. Et c'est vrai que nous voulons prendre ce temps pour méditer sur ces textes dans cette série que nous avons entamée, ces textes qui se situent au chapitre 3, verset 16. Mais juste avant, j'aimerais évoquer quelque chose. Sans entrer dans les détails des affaires scandaleuses que nous entendons parfois se produire aux États-Unis ou en France, il faut admettre que ces histoires qui impliquent le plus souvent des leaders chrétiens provoquent chez nous toutes sortes de réactions que nous pourrions dire normales. De la déception, le sentiment d'avoir été trahi, voire du dégoût. Lorsque nous entendons ces histoires scandaleuses, voilà ce que ça peut provoquer chez nous. Que ce soit pour de l'argent, pour le sexe, ou pour le pouvoir, plusieurs sont tombés à cause de ces séductions. Et cela nous paraît d'autant plus scandaleux parce que ce sont des chrétiens qui agissent ainsi. Quelque chose nous fait dire qu'il n'est pas normal qu'un chrétien tombe aussi bas. Et c'est en effet un raisonnement qui tient la route. En réalité, le péché, quel qu'il soit, est incompatible avec la vie chrétienne. Incompatible avec une vie qui est transformée par le Saint-Esprit. Et pour comprendre la portée de notre texte de ce matin, nous devons garder en tête que le problème majeur de notre humanité, c'est le péché. Le drame tout aussi majeur de notre humanité, c'est le refus de se repentir devant Dieu malgré la perspective d'un jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'humanité peut changer. La bonne nouvelle, c'est que l'humanité peut changer grâce à celui qui avait été promis des siècles auparavant, grâce à celui qui était attendu de longue date et qui est venu. Il y a 2000 ans, Jésus est venu régler ce problème majeur, de telle sorte que des hommes et des femmes se sont repentis, ont été pardonnés, ont été baptisés du Saint-Esprit, ont changé radicalement de vie, ont intégré le peuple de Dieu. Je disais donc tout à l'heure que nous sommes dans cette série de prédications intitulée Jésus-Christ 3.16. Et nous parcourons en quelques semaines certains versets qui parlent de Jésus et qui se situent par un hasard providentiel au chapitre 3 et au verset 16. La dernière fois, nous avions parlé de Jean 3.16. Et ce matin, eh bien, nous abordons un verset peut-être moins connu, mais tout aussi important, Luc 3,16. Commençons par le contexte. Luc, l'auteur de l'Évangile, a le souci de situer dans l'histoire de l'époque le ministère d'un nouveau prophète. Et je dis nouveau parce que cela fait bien longtemps que Dieu n'avait pas parlé par l'intermédiaire des hommes. Le dernier prophète reconnu était Malachie 400 ans avant. Mais voilà cet homme, Jean, fils de Zacharie, à qui Dieu adresse la parole, verset 2. C'était sous le règne de l'empereur Tibère, quand Ponce Pilate administrait la Judée, quand Hérode péchait, pardon, en Galilée, à l'époque où il y avait deux grands prêtres, dont le premier Anne, qui avait été destitué par les Romains et qui n'avait pas perdu de son influence. Bref, une époque bien particulière. Et le message de Jean-Baptiste n'est quant à lui pas nouveau. Il s'inscrit dans la continuité des prophètes d'autrefois. C'est ce même message adressé autrefois aux Israélites qui appelle à la repentance, qui appelle à reconnaître ses péchés devant Dieu, qui appelle au changement de vie. En un mot, un mot que nous employons parfois entre nous, la conversion. Si Jean tient le même discours que ses prédécesseurs, c'est qu'il y a cette nécessité pour le peuple d'Israël de se tourner vers Dieu. Rappelez-vous, le problème majeur, c'est le péché. Et pour signifier cette conversion à Dieu, eh bien, les gens se faisaient baptiser dans le Jourdain. Et on peut dire qu'effectivement, c'était une pratique plutôt inédite, nouvelle. Certains ont cherché son origine en le comparant au rite de purification que l'on pouvait trouver dans le judaïsme. Mais en fait, ces actes étaient répétés, alors que le baptême de Jean, s'il y a conversion, n'avait lieu qu'une fois. Une pratique inédite, nouvelle, se faire baptiser en signe de conversion. Luc signale à cet endroit que le ministère de Jean accomplit une ancienne prophétie, celle d'Ésaïe, 700 ans avant, que nous lisons en Ésaïe, chapitre 40, versets 3 à 5. Et je relis dans notre passage au verset 4. « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Toute vallée sera comblée. Toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé. Et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout homme verra le salut de Dieu. » Rendre le chemin droit pour accueillir le Seigneur qui vient. Une manière imagée d'indiquer qu'il faut changer, qu'il faut ôter tout obstacle dans son cœur. Obstacle tel que l'orgueil qui doit être abaissé. Obstacle tel que ce qui est tortueux et qui doit être redressé. Il faut un cœur prêt pour le Seigneur, un cœur qui soit ouvert à son salut. Et préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur, telle était la mission de Jean-Baptiste, cette voix qui crie dans le désert. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce cri attire des foules. Des foules qui viennent à Jean avec l'intention de passer par ce baptême de repentance. Mais Jean met en garde contre une attitude de façade. Il met en garde contre une attitude hypocrite qui rejette au fond le vrai changement. Écoutons encore ces paroles au verset 7. « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous mettez pas à dire en vous-même « Nous avons Abraham pour ancêtre ». En effet, je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Déjà, la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu. Jean dénonce l'attitude de ceux qui se croient à l'abri du jugement de Dieu. Venir se faire baptiser pour montrer extérieurement que nous sommes prêts à changer, cela ne vaut rien si le changement n'est pas intérieur et réel. Jean dénonce aussi cette fausse assurance des Juifs de son temps. Avoir Abraham pour ancêtre ne garantit aucunement que Dieu les considère automatiquement comme membres de son peuple. Si ceux-ci refusent de se repentir, s'ils s'endurcissent dans leurs péchés, ils n'ont aucune part possible dans le peuple de Dieu. Leur vie témoigne déjà qu'ils ne veulent pas vivre dans l'alliance avec Dieu. Jean prévient que le jugement de Dieu va sévir. Certains mauvais arbres vont être coupés et brûlés. Personne ne peut duper Dieu. Dans l'Église non plus. Personne ne peut duper Dieu. Lorsque j'évoquais tout à l'heure les scandales qui touchent les communautés chrétiennes, il arrive que nous nous demandions si ces personnes qui sont tombées si bas s'étaient vraiment tournées vers Dieu. Est-ce que ces personnes étaient vraiment chrétiennes ? Ou si ce n'était qu'une façade ? Nous aussi, examinons-nous. Afin que nous ne soyons pas comparés à un arbre qui ne produit pas de bons fruits. Quels sont ces fruits qui confirment la conversion, qui confirment la repentance ? Eh bien, Jean en parle dans les versets 11 à 14. Et c'est vrai que cette prédication que Jean-Baptiste proclame devant le peuple fait forte impression. Des gens veulent sincèrement savoir ce qu'ils doivent faire. Vous le voyez à trois reprises, au verset 10, au verset 12, au verset 14. Qu'est-ce que nous devons faire ? Tu viens de dire cela, qu'est-ce que nous devons faire ? Quels changements doivent-ils opérer dans leur vie ? À quoi ressemble une vraie conversion ? Eh bien, nous pourrions résumer ainsi les réponses de Jean. Aimez votre prochain. Soyez juste, honnête à son égard. Faites preuve de compassion envers lui. Voilà comment on pourrait résumer ce que Jean leur répond. Aimez votre prochain. Jean évoque la juste éthique selon Dieu. Et c'est tout à fait ce que nous retrouvons dans les commandements de Dieu. Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Tels sont les fruits d'une vraie repentance, d'une volonté de changer de vie. Et il est intéressant de constater que, justement, ces exhortations de Jean-Baptiste concernent la relation à son prochain. Qu'est-ce que nous devons faire ? Jean leur dit, aimez votre prochain. C'est là que le changement doit être flagrant. C'est là que le bon fruit est visible. Repensez un instant au début de votre vie chrétienne. Et pour certains, c'est encore récent. N'avez-vous pas remarqué que votre rapport à autrui est devenu différent ? La loi que Dieu a donnée est ainsi faite que celui ou celle qui aime Dieu aime aussi son prochain. Et à contrario, celui ou celle qui n'aime pas son prochain n'aime pas Dieu non plus. Alors quels sont les fruits qui attestent notre conversion ? Est-ce que nous nous situons dans la juste éthique selon Dieu ? Ou on pourrait encore se demander, qu'est-ce que Jean-Baptiste nous aurait dit sur notre manière d'être avec notre prochain ? Peut-être la première exhortation, que celui qui a deux chemises partage avec celui qui n'en a pas. Comment est-ce que je traite mon prochain, celui qui est plus vulnérable que moi ? Là, il y a peut-être déjà une indication du fruit que je porte ou non. Après la question « Que devons-nous faire ?» vient une autre question de la part de la foule. Et si Jean, ce Jean qui semble plein d'autorité et prêché avec tant de virulence, et si Jean était le Messie ? Et si c'était lui le Christ ? Eh bien, le verset 15 nous indique l'état d'esprit du peuple à ce moment-là. Ils étaient dans l'attente. Les prophètes d'autrefois ont parlé d'un Messie, d'une personne qui viendrait, qui changerait le destin du peuple. Et c'est dans ce contexte précis que Jean va lever toute ambiguïté. Il n'est pas le Messie. C'est là que nous en arrivons à Luc 3,16. Ça va, vous suivez ? Luc 3,16, je relis ce verset. Alors, Jean leur parle, leur dit, « Moi, je vous baptise d'eau. » Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean connaît très bien son rôle dans l'histoire du salut. Il est juste le messager qui prépare le peuple à la venue du Seigneur. Alors que les foules viennent à lui, Jean ne tire pas du tout la couverture à lui. Un autre doit venir. Et c'est vers lui que doivent se porter tous les espoirs. Jean se fait tout petit par rapport à celui qui doit venir. Et je lisais dans la Bible annotée, cette série de commentaires bibliques qui accompagnent le texte biblique, dans la Bible annotée, je lisais ce commentaire suivant. Rien n'est plus touchant et plus instructif que la profonde humilité, le renoncement absolu avec lesquels Jean refuse pour lui-même la confiance et les hommages du peuple, afin de les reporter tout entier sur celui qu'il annonçait comme le sauveur du monde. cette incroyable humilité de Jean, qui ne veut pas du tout recevoir les honneurs, mais qui reporte tout cela vers celui qui doit venir. Et je crois que, c'est juste une parenthèse, mais je crois que ça nous amène à réfléchir aussi sur ce qu'est l'humilité. L'humilité, n'est-ce pas, finalement, de chercher à ce que les projecteurs soient braqués vers lui, vers Jésus. Tandis que Jean appelle à un baptême d'eau, le Messie, celui qui vient, baptisera du Saint-Esprit et de feu. Jean dit aussi que celui qui vient est plus puissant. Il est d'une dignité telle que dénouer ses sandales, qui étaient la tâche des esclaves à l'époque, il ne peut le faire. Celui qui vient après Jean est infiniment, infiniment plus grand. Quelque part, j'aurais aimé être présent dans la foule et vivre cette attente. La personne que Jean annonce a l'air tellement exceptionnelle. Mais en même temps, je suis profondément reconnaissant de connaître en réalité cette personne, ce Jésus, qui est effectivement celui qui devait venir. Et je suis ému simplement à l'idée qu'il est aussi pour nous celui qui doit revenir. Connaissez-vous quelqu'un d'autre dans l'histoire qu'on attende à ce point? Les Juifs l'attendaient et il est venu. Nous l'attendons et il reviendra. Connaissez-vous quelqu'un d'autre dans l'histoire qu'on attende à ce point-là? Et assurément, celui qui reviendra est plus puissant et d'une dignité telle que nous-mêmes, nous ne sommes pas dignes de dénouer la courroie de ses sandales. Arrêtons-nous à présent sur ce que Jean dit au sujet de cet autre baptême, différent de celui qu'il pratique. Jean baptisait dans l'eau les hommes et les femmes qui voulaient revenir à Dieu, qui voulaient changer de vie, qui voulaient changer d'attitude. Et l'acte du baptême d'eau était à cet égard symbolique. Or, Jean ne pouvait pas baptiser du Saint-Esprit. Autrement dit, il ne pouvait pas envoyer, il ne pouvait pas donner le Saint-Esprit aux membres de son peuple. Ceci, c'était l'œuvre unique du Messie. Et l'image même du baptême évoque un bain. L'idée d'une purification, non pas extérieure, mais bien intérieure. Ce dont le peuple avait besoin, ce dont nous avons besoin aujourd'hui encore, c'est d'un nouveau cœur. Que notre cœur tortueux soit remplacé par un cœur bien disposé. Un cœur nouveau indique qu'une vie nouvelle est possible, avec de nouvelles dispositions, avec la disposition à obéir à Dieu. Nous avons besoin d'un tel cœur. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est le même texte que nous avons lu la dernière fois, que je relis en Ézéchiel chapitre 36, parce que tout cela était déjà annoncé bien avant. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. L'Éternel déclare : « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Le baptême dans l'esprit a donc pour effet une purification de l'intérieur. Et sans cette purification, eh bien, l'être humain ne peut pas changer. Il reste pécheur et emprisonné dans ses péchés. Sans cette purification, cette transformation intérieure, l'homme ne peut pas changer. Jean ne pouvait pas accomplir une telle œuvre. À vrai dire, aucun homme ne le peut, à moins que cet homme soit Dieu. Parlons aussi de l'image du feu ici. Le Messie baptisera de feu. Eh bien, le feu est une image qui est employée dans l'Ancien Testament, tantôt comme un élément purificateur, comme le feu qui purifie des métaux pour enlever toutes les impuretés de ces métaux, et tantôt comme un élément destructeur, un élément qui évoque en fait le jugement de Dieu. Écoutez ces textes qui mentionnent ces deux fonctions du feu. Je lis dans Malachie chapitre 3, les versets 2 à 4. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Il s'assiera pour fondre et purifier l'argent. Il purifiera les descendants de Lévi. Il les rendra purs comme on rend pur l'or et l'argent. Et c'est suivant la justice qu'ils présenteront des offrandes à l'Éternel. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme autrefois, comme par le passé. Donc ici, on entend le feu comme élément purificateur. Malachie chapitre 3, verset 19 maintenant. En effet, voici venir ce jour, brûlant comme un four. Tous les hommes arrogants et tous ceux qui font le mal seront comme la paille. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Et ce que je trouve intéressant dans ce verset que je viens de lire, Malachie 3, verset 19, c'est que bien sûr, il est question de ce feu destructeur, de ce jugement, mais on entend parler aussi de ces hommes qui font le mal et qui sont comparés à la paille, ce qu'on verra tout à l'heure au verset 17. Et puis également, on entend dans ce même verset que l'Éternel ne leur laissera ni racine, ni rameau. Et il était question de cette hache qui était déjà sur la racine des arbres pour couper tout mauvais arbre. Je trouve intéressant que dans ce verset, on retrouve ces éléments, ces images. Dans ce sens, le baptême dans l'esprit et dans le feu constitue aussi un jugement. Un jugement dans la mesure où il sépare au sein même du peuple d'Israël et plus tard au sein de l'humanité ceux qui reçoivent l'esprit de ceux qui ne le reçoivent pas. Il y a jugement dans ce sens-là. Il y a séparation dans ce sens-là. Et en fait, la perspective du jugement de Dieu est de loin la perspective la plus terrible pour un être humain. Il en est ainsi parce que Dieu ne peut laisser dans sa justice un seul péché impuni. Et l'annonce de ce jugement est un peu plus haut déjà de la colère à venir, nous rappelle la gravité extrême du péché. Nous avons peut-être parfois tendance à l'oublier dans notre quotidien, habitués parfois à nos propres péchés, mais il y a une gravité extrême qui, effectivement, explique pourquoi, à la fin de l'histoire, il y a un jugement. Le péché est toujours contre le Dieu saint. Dans tout ce que nous faisons de mal, c'est toujours dirigé contre Dieu. Et le Dieu saint ne peut pas laisser passer cela. C'est pour ça qu'un jugement est prévu à la fin des temps. Le péché, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est le problème majeur et c'est un problème de taille. Et d'après l'enseignement biblique, eh bien, l'histoire se dirige vers le jugement de Dieu, celui qu'on appelle le jugement dernier. Inévitablement, l'histoire va dans ce sens-là. Si vous voulez connaître le dernier chapitre de l'histoire, c'est celui-là, le jugement, qui mettra fin à l'histoire de ce monde tel que nous le connaissons. Quels que soient les événements du moment, et nous entendons parler de beaucoup de choses en ce moment, quand on regarde l'actualité, quels que soient les événements du moment, notre histoire a comme perspective inéluctable le verdict final de Dieu pour toute l'humanité. Et le verset 17 de notre texte confirme d'ailleurs que l'œuvre du Messie consistait déjà à faire un tri entre le blé qui est amassé et la paille qui est destinée au feu. Et en effet, déjà durant le ministère de Jésus, eh bien certains l'ont accueilli et ont cru en lui, ça c'est le blé, tandis que d'autres se sont obstinés à s'opposer à lui, ça c'est la paille. Oui, déjà au temps de Jésus, le tri avait commencé. Et ce tri continue. Toute l'humanité va vers le jugement de Dieu. Mais je veux quand même dire que la parole de Dieu nous annonce une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu permet dans sa grâce que celles et ceux qui se tournent vers son Messie reçoivent le pardon des péchés. Ces péchés qui devraient nous accabler, qui devraient nous faire mériter ce jugement de Dieu, eh bien la bonne nouvelle, c'est que dans sa grâce, Dieu permet à ce que celles et ceux qui se tournent vers le Messie reçoivent le pardon des péchés. Par contre, à ceux à qui Dieu n'a pas pardonné, à ceux qui n'ont jamais voulu se tourner vers lui d'un cœur sincère, il ne reste que le sort d'un feu qui ne s'éteint pas. Image redoutable pour qualifier le châtiment éternel. Pour le dire encore d'une autre manière, Dieu nous convoque à notre procès, celui dans lequel nous serons tous jugés, et dans sa grâce immense, il nous propose d'échapper dès aujourd'hui à la condamnation. Si nous plaçons toute notre confiance en son Fils bien-aimé. Cette parole de Jean à propos du Messie, au sujet du baptême dans l'Esprit et dans le feu, s'est accomplie très précisément le jour de la Pentecôte. Et c'est Luc encore qui raconte ce moment dans le livre des Actes, au chapitre 2, Actes chapitre 2, versets 1 à 4. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » On retrouve dans ce récit l'élément du feu. Écoutez aussi comment Pierre, l'un des douze, décrypte l'événement. Versets 32 et 33, « C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. » C'est Jésus, à la droite du Père, qui a déversé le Saint-Esprit sur ses disciples, tel un baptême. C'est là que s'accomplit cette parole. Le Messie qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ça s'est passé à la Pentecôte. Et cette promesse de Dieu de donner son Esprit aux membres de son peuple s'est réalisée à partir de ce jour. Et depuis ce jour, toute personne qui met sa foi en Jésus, après s'être détournée de sa vie passée dans le péché, reçoit le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire à ses destinataires qui étaient chrétiens, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. » Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit. Depuis la Pentecôte, il en est ainsi. Puisque Jésus est venu faire un tri au sein de son peuple, puis plus tard au sein des autres nations, nous sommes totalement concernés par cette œuvre du Messie. Alors j'aimerais vous poser cette question. Avons-nous été baptisés du Saint-Esprit et de feu? Si vous ne savez pas quoi répondre à cette question, il faut que nous en parlions. Venez me voir après le culte. Avons-nous été baptisés du Saint-Esprit et de feu? Jean-Baptiste parle du Messie comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Quelles sont les conséquences de l'œuvre du Messie? Quelles sont les implications de cette œuvre pour notre vie actuelle? Eh bien, pour celles et ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, cela change tout. Premièrement, cela change la vie. Cela change la vie. Si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, eh bien, nous ne sommes plus les mêmes qu'avant. Une œuvre de purification intérieure a déjà commencé, est en cours. Nos dispositions à l'égard de Dieu ont changé. Si autrefois j'ignorais Dieu, eh bien, aujourd'hui, je veux vivre pour lui. Quelque chose a changé. Et comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, l'un des domaines à évaluer pour identifier le changement qui s'est opéré en nous, c'est notre relation à autrui. C'est comment nous nous comportons, vis-à-vis des autres. C'est là qu'on peut percevoir très précisément si quelque chose a vraiment changé en nous. Où est-ce que j'en suis avec le commandement d'aimer mon prochain? Et je l'admets, hein, c'est large quand on dit aimer son prochain. Mais où est-ce que j'en suis par rapport à ça? Parce que ça concerne notre quotidien. Ça concerne le dimanche, quand nous nous rassemblons. Si j'ai reçu le Saint-Esprit, non seulement mes dispositions à l'égard de Dieu ont changé, mais également celles à l'égard de mon prochain. Je ne le vois plus comme je le voyais avant. Est-ce que j'ai remarqué ce changement dans ma vie? Que désormais, je ne traite plus les autres comme je le faisais auparavant. Autre changement majeur, avoir le Saint-Esprit nous incorpore dans le peuple de Dieu. Avant, nous n'étions pas de ce peuple, mais dans sa grâce, Dieu a décidé que nous le soyons. Dieu l'a décidé avant notre propre décision. Remarquez comment Luc raconte parfois la croissance de l'Église depuis la Pentecôte, depuis le jour où le Saint-Esprit a été donné. Je lis dans Actes chapitre 2, verset 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » C'est le Seigneur qui fait cela. Actes chapitre 11, verset 21, « La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. » Acte 13, verset 48, les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Si nous faisons partie du peuple de Dieu, c'est parce que Dieu l'a décidé avant notre propre décision. Même après son ascension, Jésus continue par son esprit de se constituer ce peuple qui est en constante augmentation. Et nous comprenons alors en quoi l'œuvre du Messie qu'annonçait Jean-Baptiste a encore des répercussions sur notre vie. C'est vrai, le baptême dans l'Esprit nous a séparés de l'humanité qui ne croit pas, nous a fait changer de camp. Nous sommes passés du camp des ennemis de Dieu au camp des amis de Dieu. Je reprends ce verset 1 Corinthiens 12, verset 13. « En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Ça, c'est la suite du verset. « Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, incorporé dans le peuple de Dieu. » Comme nous l'entendons parfois, l'Église est le vaste projet de Dieu. Et en faire partie est un privilège inestimable. Nous le devons à Dieu. Nous le devons à l'œuvre de Jésus. Nous le devons à l'Esprit-Saint. Enfin, avoir reçu le Saint-Esprit, c'est la garantie d'être préservé de la colère à venir. Comme nous l'avons vu, le baptême dans l'Esprit devient un jugement pour celles et ceux qui refusent de se tourner vers Dieu. Ces derniers sont comparés à la paille destinée au feu. Mais pour celles et ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, le jugement n'est plus à craindre. L'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 13 à 14, « En lui, en Christ, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui vous avez cru. » Et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le Saint-Esprit qui est donné aux croyants est le gage de leur héritage. Si nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons comme gage que nous recevrons l'héritage qui nous est promis. Et bien entendu, nous devons redire combien l'œuvre du Seigneur est rempli de grâce à notre égard. Nul n'échappera à la colère de Dieu à venir, si ce n'est celles et ceux qui se réfugient auprès de Jésus. Si ce n'est celles et ceux qui reçoivent de lui le Saint-Esprit, comme sceau, comme empreinte de notre appartenance à Dieu. Et assurément, Dieu ne détruit pas celles et ceux qui sont à lui. Dieu nous fait cette grâce d'échapper à sa colère. Mais cette colère aura bien lieu. Frères et sœurs, nous avons beau nous poser des questions sur notre avenir, sur l'avenir ou le devenir de ce monde. Nous connaissons déjà au moins une chose sur l'avenir, le verdict final de Dieu à notre sujet. Un verdict d'approbation. Non pas en vertu de ce que nous aurions fait, mais en vertu de ce que Christ a accompli. Et parce que nous avons mis foi en lui seul. Oui, concernant l'avenir, nous connaissons au moins cette chose-là. Et elle est certaine. Je disais au début que le péché, quel qu'il soit, est incompatible avec la vie chrétienne, avec une vie transformée par le Saint-Esprit. Cela ne renvoie pas seulement aux histoires scandaleuses qui nous déçoivent, cela renvoie aussi à notre propre vie et à notre attitude vis-à-vis du péché. Si nous savons qu'un jugement de Dieu aura lieu pour toute l'humanité, que Dieu n'a pas encore déchaîné toute sa colère contre le mal commis ici-bas, c'est maintenant qu'il faut traiter le problème du péché. Comme à l'époque de Jean-Baptiste, il n'y a pas 1000 voies possibles. En réalité, il n'y en a qu'une seule. La repentance, la foi en celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Et c'est parce que sa vie sans défaut a été sacrifiée à la place de notre vie pleine de défauts que le pardon de nos péchés nous est accordé. S'il n'y a pas ce sacrifice, il n'y a pas de pardon. Et nous avons besoin d'un tel sacrifice. Dans la justice parfaite de Dieu, le péché appelle un châtiment. Le péché appelle un jugement. Et Christ, précisément, est mort pour cela. Bien plus, il est ressuscité. Il est monté au ciel et il est à la droite de Dieu. Ainsi, il a pu envoyer le Saint-Esprit promis. Rendez-vous compte ce matin que nous sommes bénéficiaires de toute cette œuvre de Jésus. Cette période de l'Avent tombe à pic. Elle nous permet de méditer de nouveau sur ce que Christ a fait, sur la bonne nouvelle de notre salut. Alors, à notre Dieu, soit la gloire. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur de nous permettre, encore ce matin, d'avoir une connaissance plus profonde de ton œuvre, de nous rendre compte que c'est bien au-delà de tout ce que nous méritons. Et c'est pour cela que nous te demandons encore pardon ce matin. Pardon pour nos offenses. Pardon, Seigneur, pour nos péchés qui sont dirigés contre toi. Pardon pour chaque fois que nous avons la mauvaise idée de te désobéir. Et nous pouvons compter sur le fait que tu es prêt à nous pardonner parce qu'un sacrifice a été accompli. Un sacrifice parfait. Accompli une fois pour toutes. En la personne de ton Fils Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que c'est ce don que tu nous as fait pour nous permettre d'avoir la vie. Et conduis-nous encore tout au long des jours qui sont là devant nous. Nous ne savons pas combien de temps. Conduis-nous par ton esprit afin que nous ne soyons pas légers avec le péché. Parce que nous savons que cela t'a tant coûté. Conduis-nous, Seigneur, de telle sorte qu'effectivement nous puissions continuer à être purifiés, transformés, toujours plus agréables à toi. Merci, Seigneur, parce que c'est cette œuvre-là que tu es en train de faire dans notre vie. Peut-être que par moments, nous pouvons nous sentir découragés de ne pas voir nos progrès, de ne pas voir de changement dans notre vie. Mais pourtant, tu fais quelque chose. Et tu mèneras cette œuvre à la perfection. Seigneur, nous te prions encore, parce que nous savons qu'il y a cette perspective du jugement à venir, parce que nous savons que l'histoire se termine avec ce jugement-là. Te prions encore, Seigneur, que dans ce temps de grâce, tu manifestes cette grâce à l'égard de celles et ceux qui ne te connaissent pas. Que ce soit parmi nous ou que ce soit dans notre entourage, Seigneur, s'il te plaît, fais cette œuvre de grâce encore. Et merci, parce que en étant assuré d'avoir le Saint-Esprit, en étant assuré que le Saint-Esprit est là comme gage de notre héritage, eh bien nous pouvons avancer avec plein d'espérance et en toute confiance, en toute assurance, parce que c'est avant tout ton œuvre. Et c'est pour cela que ce matin encore, nous te rendons gloire. Et c'est au nom de Jésus qui, lui, s'est totalement donné pour nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.